Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Cœur de patrimoine, comme chaque semaine on vous accompagne, mais nous sommes au cœur des vacances scolaires et c'est donc un best-of qui nous permet de retrouver quelques-unes des interventions les plus marquantes des dernières semaines. Et aujourd'hui, on va notamment s'intéresser au transfert de prêts immobiliers. On vous en détaillera les opportunités, mais aussi les risques. Ce sera avec Vincent Bellassène chez Côté Neuf. Et puis, à l'heure où on parle énormément d'intelligence artificielle, vous allez découvrir qu'elle sait aussi, cette IA, se mettre au service de la gestion de patrimoine. C'est Vincent Orez chez Figen AI qui viendra nous parler de tout cela. Et puis comme l'assurance vie compte beaucoup pour vous, on fera un peu de technique patrimoniale avec Taline Melkonian chez De Groff. On vous apprendra à démembrer un contrat d'assurance vie. Tout de suite, on démarre avec les transferts de prêts immobiliers. Parole à Vincent Bellassène.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Vincent Bellassène, bonjour.
Bonjour Cédric Decoeur.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondateur de Côté Neuf. Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, on va parler de prêts immobiliers, de transferts de prêts, d'opportunités, de risques. Je ne sais pas si les auditeurs auront croisé cette histoire qui a un petit peu fait parler d'elle dans la presse de couple qui avait finalement ne pas remboursé son prêt, changé de bien et qui se sont fait un peu rattraper par la patrouille. Alors on ne va pas s'attarder complètement sur l'histoire de ce couple, mais on va essayer de gamberger sur ces histoires de prêts. D'abord, peut-être on rappelle, quand on souscrit un prêt, il y a des conditions. Avec des tas de petites lettres qu'il faut lire. Pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir finalement son prêt, ses conditions? Quels sont les critères selon vous qu'il faut vraiment privilégier quand on part dans cette aventure du crédit immobilier?
C'est vrai qu'on a tendance à regarder toujours la partie taux, la partie prix du prêt immobilier.
On est obnubilé par le « ah, j'ai obtenu tant ».
Évidemment, c'est une composante essentielle. C'est-à-dire que quand on va chercher un prêt immobilier, on va rembourser des intérêts tous les ans. Et donc, payer le moins d'intérêt possible, c'est super intéressant. On oublie souvent que le prêt immobilier, c'est une arme patrimoniale, mais une arme de destruction massive. C'est-à-dire que ce soit en termes de prévoyance, de protection de la famille ou de création de patrimoine, finalement, en plus du levier de crédit que tout le monde voit, on a la capacité à avoir des éléments complémentaires dans une offre de prêt immobilier qui permettent de protéger son environnement, sa famille et sa sécurité à moyen terme. Ces petites lignes-là, personne ne les connaît et finalement elles font souvent de grandes différences. Vous parliez de la transférabilité du prêt, c'en est une, mais on y reviendra après parce que finalement c'est une toute petite modalité. Les deux plus importantes pour moi, alors disons les trois plus importantes, vous allez déjà avoir l'assurance. L'assurance aujourd'hui...
L'assurance emprunteur qu'on peut ou pas déléguer.
Exactement, à bien différencier de la garantie. L'assurance aujourd'hui, elle vous protège vous et votre famille, la garantie protège votre créancier. Donc pour le coup, l'assurance emprunteur, très importante, avec des coûts très différents et des garanties très différentes. Et ensuite, vous avez deux éléments de protection majeurs pour votre vie du quotidien qui font que la propriété est presque plus protectrice que la location. Je dis souvent, moi je préfère dans une situation difficile être propriétaire que locataire grâce à ça. Ces deux modalités, c'est la modulation, donc la modularité de vos échéances dans le futur et le report d'échéances possible sur votre offre de crédit immobilier. C'est important de regarder si vous pouvez en bénéficier parce que dans des situations difficiles de changement d'emploi, de perte d'emploi, de passage temporaire au chômage, c'est très intéressant de pouvoir baisser temporairement ses mensualités. Certaines banques vont de 10 à 30%, mais aussi de pouvoir reporter des échéances. On l'a fait avec énormément de nos clients pendant la période Covid, de nos acheteurs en immobilier neuf, de pouvoir se dire, allez, janvier, février, je paye pas et je reporte mes échéances sans avoir d'incident.
Ça veut dire que lorsqu'on négocie son prêt, il faut tout lire.
En tout cas, il faut soit tout lire soi-même, soit se faire accompagner par quelqu'un qui sait lire et qui sait lire des offres de prêt. Et regarder que l'auto, c'est une chose. Être capable de savoir quels avantages peut m'attribuer un prêt immobilier, c'en est une autre. Et c'est très important de faire attention à ça lorsqu'on souscrit.
Alors effectivement, vous avez rappelé les quelques clauses qui vous paraissent importantes. Et il y a, ou il peut y avoir, ou il y avait parce que c'était devenu un petit peu plus rare, des clauses de transfert de crédit.
Alors moi,
qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors Cédric, vous savez peut-être que j'ai été banquier à l'époque, j'ai été courtier aussi, donc j'ai fait pas mal de choses autour du crédit. La transférabilité du prêt, c'était une clause qui était dans l'offre de prêt qui permettait d'utiliser son capital restant dû au moment de sa revente, donc ce qui nous reste à payer, pour le transférer vers une nouvelle opération aux conditions initiales. Donc il fallait souvent faire un crédit complémentaire aux nouvelles conditions, mais on bénéficiait de son ancien crédit avec les conditions de l'époque où on l'avait faite. Il faut bien savoir que, quoi qu'il arrive, même lorsqu'elle était contractuelle, cette clause restait à la discrétion de la banque. Ce qui signifie...
Donc c'était pas acquis.
Pas du tout. Et même quand on le demandait, enfin pour l'avoir vécu opérationnellement, il y avait 90% de chances d'avoir un refus parce que les conditions n'étaient quasiment jamais favorables pour la banque pour effectuer un transfert.
Ah, bien évidemment. Parce que le but, c'est généralement, quand on le demande, c'est que c'est intéressant pour nous, moins
bien
pour
sûr.
Le banquier.
Et donc, si c'est intéressant pour nous, ça l'est moins pour la banque. Donc, il y a une certaine logique dans l'opération.
Entre guillemets.
Donc, 2017, les banques arrêtent la transférabilité contractuelle. Et donc, en fait, il reste dans cet inconscient collectif la capacité, en tout cas, à transférer son prêt et le fait que ce soit une bonne opération pour les particuliers. Et donc, on arrive sur les fameux articles dont vous parlez récemment avec beaucoup de gens qui décident de faire ce qu'on appelle peut-être des transférabilités unilatérales. Ouais, de décider de transférer soi-même son crédit immobilier. Comment ça marche? Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, quand vous souscrivez un crédit immobilier, il y a deux types de garanties. Donc, on peut garantir notre créancier, qui est la banque, hein, généralement, de deux façons. Soit par une inscription notariée, donc une sûreté réelle. On va prendre une hypothèque, ce qu'on appelait avant une inscription du privilège de prêteur de deniers. Et donc, le notaire va écrire sur le papier, si vous ne remboursez pas, la banque saisit votre bien et la revend. Et puis les banques, pour limiter leurs risques et surtout pour le mutualiser, ont créé des établissements, comme Crédit Logement, qui permettent de mutualiser le risque et de déporter le risque vers un établissement tiers. Et donc, il n'y a plus d'inscription notariée. Et d'ailleurs, quand vous faites aujourd'hui un crédit à la BNP, à la Société Générale ou au LCL, en finalité, vous empruntez aux trois banques parce que c'est le même organisme de caution qui cautionne votre crédit immobilier.
Ouais, et souvent, c'est très rapide, on signe un papier et on a...
Et même des fois, dans la minute, on a la réponse en banque.
Comme quoi c'est d'accord.
Exactement. Et donc, quand on reçoit l'argent suite à une vente aujourd'hui, eh bien, avant, le notaire, il vérifiait sur son papier qu'il y avait une inscription hypothécaire et qu'il fallait la rembourser. Aujourd'hui, le notaire, il a rien à vérifier. Il envoie l'argent à l'emprunteur et lui dit « Attention, il faut bien rembourser votre crédit immobilier ». Et donc là, effectivement, il suffit de dire oui et d'en faire ce qu'on en veut.
Et alors, il y a un risque à faire ça en loose day, entre guillemets ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Après tout, la banque, elle continue chaque mois à toucher sa mensualité. À part qu'effectivement...
C'est vrai, sauf que le crédit immobilier est un crédit affecté. Et donc, ça veut dire que le crédit immobilier, il est affecté à un risque pour une adresse, finalement. Et donc, quand vous décidez de reporter ce risque-là sur une nouvelle adresse sans l'accord de la banque, eh bien, vous faites une sorte de fausse déclaration intentionnelle et vous allez rentrer dans le cadre général de ce qu'on appelle la déchéance du terme dans un crédit immobilier, donc l'exigence anticipée du crédit immobilier. Et ça revient aux gens qui font des faux dossiers avec des faux bulletins de salaire. Alors, il peut y avoir des poursuites pénales en complément, mais généralement, ça s'arrête à la déchéance du terme. Et donc, l'idée, c'est de dire, si on vous détecte pour une erreur X ou Y, un problème d'adresse, on vous demandera sous 30 jours de rembourser l'intégralité du prêt immobilier.
Ah ouais.
Là, ça peut piquer. Ouais. Ça peut piquer. C'est pour ça que la dernière fois que j'en parlais, je disais, si c'est pour prendre l'argent, le placer à un taux plus élevé que ce qu'on l'a emprunté.
On peut éventuellement jouer.
Si c'est libérable et qu'il est en dispo, le risque juridique est faible.
Si c'est une résidence secondaire, tout ça, ça peut le faire. Mais...
Avec le risque de devoir la vendre vite et d'avoir une décote importante.
Ouais, c'est ça.
Et de se retrouver avec un CRD, un capital restant dû sur les bras. Donc, on n'est plus maître lorsqu'on fait ça de sa dynamique patrimoniale. On prend un risque pour soi et pour sa famille si c'est en résidence principale, avec le risque de devoir vendre vite. Et quand on vend vite, on ne vend pas bien.
Donc, du coup... Parce que j'ai envie de dire, un couple qui démarre sa vie patrimoniale, en plus, dans les périodes récentes, on avait des taux quand même qui étaient très intéressants. Donc, on démarre sa vie patrimoniale, on n'a pas forcément le schéma de ce qui va se passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, bien pas partir du bon pied, quoi, enfin, ne pas commettre d'erreurs, se dire un petit peu, comment on fait si on va vouloir évoluer, enfin voilà, quels conseils on peut donner à un couple d'emprunteurs ou à un emprunteur, disons, voilà.
Je vais donner un conseil que je donne quasiment toujours. C'est de se dire, dès qu'on démarre dans la vie patrimoniale, que ce soit dans l'immobilier, dans les placements, que chaque point de rentabilité, c'est un point de risque. Et donc, en réalité, il faut être capable d'être raisonnable dans sa construction patrimoniale, dans un contexte où tout le monde vous dit qu'on peut faire de grandes choses très vite. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil aux primo-accédants ou aux jeunes emprunteurs ou à ceux qui essayent de développer jeunes leur patrimoine, c'est de garder la tête froide. Les promesses n'engagent que ceux qui les font et il vaut mieux une petite rentabilité sereine qu'une très grosse rentabilité avec de très grands risques quand on est en construction.
Bah, malgré tout, c'est quand même tentant. Enfin, je veux dire, on a ce bien immobilier, sa valeur a progressé. On se dit, si je rembourse pas le prêt tout de suite, en croyant bien faire, finalement, j'ai une plus-value qui est encore plus forte que je peux réinvestir. Comment est-ce qu'on peut conseiller pour bien gérer cette plus-value finalement ?
Finalement,
en restant dans les clous, là.
Finalement, la plus-value, on en fait ce qu'on veut.
Ouais.
Il suffit simplement de rembourser son ancien crédit immobilier. Donc, il n'y a aucune problématique avec la plus-value qui, pour le coup, est exonérée dans le cadre d'une modification de résidence principale, une revente puis un achat. Il n'y a pas du tout de problématique sur la partie plus-value. La problématique, c'est de se dire, est-ce que pour ne pas payer 2% d'intérêt annuel en plus sur la partie du capital qui me reste à verser, je vais prendre le risque de devoir perdre mon nouveau bien pour gagner peut-être 2, 3, 4, 5 mètres carrés ou pour gagner 2, 3, 4 kilomètres d'éloignement par rapport à l'endroit où je voudrais être. Ah, c'est ça la vraie vérité. Les taux sont remontés très vite et donc souvent les gens n'ont pas forcément ce qu'ils voudraient par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir.
Bien sûr, parce qu'ils ont perdu un peu de pouvoir d'achat immobilier. Ouais.
Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? C'est toute la question que l'emprunteur se pose à ce moment-là. On parle de risque. Le risque juridique est très faible. C'est-à-dire qu'une banque qui va faire la déchéance du terme, attaquer en justice derrière, c'est assez rare. Ce qu'elle veut, elle, c'est récupérer ses fonds, revendre son bien et passer à autre chose. Néanmoins, le risque est important. Quand on a des enfants et une femme dans le bien et qu'on est obligé de se séparer de ce bien avec une décote, de conserver un crédit et de repartir sur quelque chose de nouveau et souvent en location, bien, c'est quand même un risque que personnellement, je n'ai pas très envie de prendre.
Attention donc aux fausses bonnes idées. Merci beaucoup, Vincent.
Avec plaisir.
Vincent Bellassène, donc, pour Côté Neuf, qui nous accompagnait sur ses péripéties immobilières.
Grand péripéties.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on va découvrir à présent une facette de cet écosystème de la gestion de patrimoine. Celles et ceux qui vous conseillent ou vous qui conseillez, eh bien, il existe une IA, une intelligence artificielle qui peut se mettre à votre service. Chacun connaît ChatGPT. Eh bien, on va voir que cette intelligence artificielle, elle peut s'appliquer à la gestion de patrimoine. Vincent Aurez, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
Merci de l'avoir accepté et de nous avoir rejoint ce matin sur le plateau de Cœur de Patrimoine. Votre boîte s'appelle Figen AI. On va peut-être commencer par une petite fiche pratique. Qui est Figen AI ?
Figen AI, c'est un nouvel entrant, une fintech dans l'univers IA, gestion de patrimoine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des agents IA. Autrement dit, on fait des outils pour les professionnels du conseil patrimoine.
D'où vous est venue cette idée finalement de vous adresser spécifiquement à la gestion de patrimoine avec cet outil qui débute encore, mais qui fascine tout le monde des IA.
Alors, l'outil est né, l'idée est née collectivement à la rencontre des conseillers en gestion de patrimoine, des professionnels du conseil patrimonial depuis désormais plusieurs années. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Et à force de rencontrer des professionnels qui demandaient notamment comment je peux aller rechercher de l'expertise personnalisée pour mon cas client ? Comment je peux avoir une aide au quotidien pour me faire gagner du temps ? Eh bien, il y a 2 ans, ChatGPT est arrivé. On a commencé, quand je dis on, les professionnels et l'ensemble des associés, on a commencé à regarder et on a vu qu'on pouvait faire un outil dédié à ce secteur en France.
Pour autant, enfin, tout le monde, hein, moi le premier, quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va m'apporter comme réponse sur quelques questions basiques de ce qui fait mon quotidien, de ce dont je parle sur les antennes, la gestion de patrimoine. Et les premières réponses que j'avais trouvées dans ChatGPT, je dois le confesser, elles m'ont vraiment jamais totalement satisfaite. Il y avait même quelques erreurs assez grossières. Du coup, en quoi est-ce que ça se différencie, votre proposition, Figen AI, de ChatGPT, par exemple.
Alors, effectivement, ne faites pas confiance à ChatGPT, ni actuellement, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans. Parce que par construction, on ne sait pas exactement les données sur lesquelles on s'appuie. Je vous donne un exemple. Le pacte Dutreil était remis en question à l'occasion des débats sur la loi de finances. Imaginons qu'il était remis en question dans la prochaine loi de finances. Qui vous dit que ChatGPT 5 l'aura bien pris en compte et on pourra être sûr que les conditions sont intégrées dans l'outil? Nous, on a pris une autre approche. On prend la technologie IA. On a construit notre propre base de données. Concrètement, c'est plus de 15 000 pages sur qu'est-ce qu'un pacte Dutreil aujourd'hui, les conditions, etc. Qu'est-ce qu'un FCPR, qu'est-ce qu'une SCPI, toutes les stratégies patrimoniales. Donc 15 000 pages d'une encyclopédie qui a été construite dans un seul but. Être au service d'une IA qui pourra aller chercher la bonne information à jour. Et cette information à jour, on la met à jour toutes les semaines. Et donc les professionnels qui l'utilisent au quotidien, eh bien, nous font confiance, ne font pas confiance à ChatGPT, mais font confiance à Figen AI, parce que Figen AI leur garantit une encyclopédie à jour.
Bon. Alors, cette encyclopédie, cet outil-là, voilà, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Au quotidien, je l'utilise comment ?
Au quotidien, alors, depuis 3 semaines où on a ouvert la commercialisation, c'est plus de 100 cabinets qui sont devenus clients. Et donc, on commence à avoir beaucoup de retours après des mois d'expérimentation avec plusieurs family office et conseillers en gestion de patrimoine. Comment ils l'utilisent ? La première chose à retenir, c'est qu'ils l'utilisent comme un alternant. Alternant complémentaire, s'ils en ont déjà, ou un alternant dont ils auraient bien eu besoin auparavant. L'alternant, qu'est-ce qu'il vient faire ? Eh bien, comme un alternant, vous pouvez lui demander des choses que vous auriez peut-être très bien su faire vous-même, mais qui vous auraient pris un petit peu de temps. Je vous donne un exemple. Vous avez face à vous un client, vous savez que pour sa retraite, il serait intéressant de faire une assurance vie, un PER et toute une stratégie patrimoniale. D'abord, la première chose, c'est que vous pouvez demander à l'alternant est-ce qu'il n'a pas d'autres idées qui pourraient être intéressantes dans ce cas spécifique. L'autre chose que peut faire l'alternant, c'est que vous lui demandez, donc vous rédigez vraiment sur Figen AI, pour ce cas client, je pense à l'assurance vie et au PER, est-ce que tu peux me réaliser l'ensemble des simulations et me présenter ça dans une fiche que je vais présenter à mon client en PDF ou dans un mail. Et l'alternant s'exécute en 1 minute maximum. Vous avez cette fiche qui est là pour vous et pour votre client sur la base de connaissances vérifiées.
Bon. C'est magique et bon, même s'il faut pas forcément faire confiance à ChatGPT pour ce qui concerne la gestion de patrimoine, tout le monde a déjà essayé de multiples requêtes auprès de ChatGPT en s'ébahissant de la rapidité à laquelle et de la précision avec laquelle la réponse est souvent apportée. Malgré tout, il y a derrière ces IA énormément de questions qui se posent et je pourrais me faire l'avocat du diable en vous disant, mais finalement, ok, pour le moment, vous n'êtes qu'un apprenti, un alternant. Mais après, est-ce que vous n'allez pas finalement me piquer mon boulot de conseiller patrimonial ? Et est-ce que finalement, après, le client, il ne va pas directement se connecter sur Figen et se dire je vais fabriquer ma gestion de patrimoine tout seul. Vous y avez pensé, ça ?
Bien sûr, et c'est une question tout à fait légitime.
Et j'imagine que les CGP vous ont fait part de cette inquiétude.
Ils font part de cette inquiétude avant de tester l'outil. Une fois qu'ils testent à quoi peuvent servir l'IA, la question ne revient plus jamais. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, et c'est ça que nous permet aussi la technologie IA, on a peur d'être remplacé. Moi, je pourrais être remplacé, mais demain, les IA pourraient devenir directeurs de société en ayant des réflexions plus rationnelles encore. Néanmoins, le métier de conseil patrimonial, c'est aussi, et je vais rien apprendre à ceux qui nous écoutent, un métier d'écoute, un métier d'empathie, un métier de savoir poser les bonnes questions pour comprendre le client. Et c'est aussi un métier de conviction. Et là, l'IA ne répond à aucun de ces besoins-là. Métier de conviction, aujourd'hui, certains conseillers ont une conviction immobilière, en particulier en France ou autre. L'IA va les aiguiller, va aller chercher la bonne information, mais n'aura pas les convictions et n'aura pas leur écoute et leur relation avec le client. Donc, nous, ce qu'on répond à cette crainte, hein, c'est essayer l'outil. Vous allez voir, il a été même conçu avec des professionnels du conseil patrimonial pour vous faire gagner du temps.
On sait aussi que c'est un métier, la gestion de patrimoine, qui est extrêmement réglementé. Il faut passer sous les fourches codines d'un certain nombre d'organismes. Hein. Oui. On pense à la CPR, à l'ORIAS, à l'AMF, etc. Qu'est-ce qu'il en est de l'IA ? Enfin, je veux dire, comment aussi toutes ces organisations regardent arriver cette espèce d'alternant.
Oui, alors cet alternant, nous, pour être sûr de pouvoir répondre justement aux questions des professionnels, on lui fait passer la certification AMF et la certification AMF Finance Durable. Bon, 100% de réussite aux questions de la certification. On va plus loin et on teste aussi sa compréhension pour aider les ingénieurs patrimoniaux. Et là, on teste, on lui fait passer vraiment une sorte de baccalauréat de la gestion de patrimoine, de l'ingénierie patrimoniale, toutes les semaines encore, pour être sûr que l'ensemble du système, par exemple, répond à des cas plus complexes de master d'ingénierie patrimoniale en France. Aujourd'hui, on tend vers un succès de cette compréhension, de cette automatisation du rationnel, mais encore une fois, on ne viendra pas remplacer la relation client. Une autre chose que je voulais évoquer, c'est effectivement, on peut avoir peur de cette IA. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus peur de nos clients qui vont utiliser l'IA. Un sondage de la semaine dernière nous indique que les 18-25 ans en France, plus de 50% l'utilisent tous les jours. Et on pourrait dire, bon, pour faire quoi ? 78% des personnes qui l'utilisent au quotidien dans cette tranche d'âge l'utilisent pour une chose, pour du conseil. Autrement dit, dans 2 ans, imaginons cette tranche d'âge, et peut-être même avant, vu la rapidité à laquelle ça va, que fera le professionnel qui, face à lui, se targue d'avoir ChatGPT-5, si lui n'a pas un outil métier qui lui permet d'aller beaucoup plus loin sur les réponses qu'il apporte ?
15 000 pages, si j'ai bien retenu le chiffre.
Oui.
C'est une combinaison, une compilation en fait de tout ce que vous avez trouvé sur l'AMF, sur la CPR, sur Adofin, Alorep, enfin et que sais-je encore. Enfin, ou alors c'est un ouvrage entre guillemets unique que vous avez finement ciselé.
C'est plutôt la deuxième réponse. Mais comment on fait un ouvrage finement ciselé si ce n'est en allant regarder avec des mécanismes d'automatisation notamment la loi. La loi comporte beaucoup d'éléments qu'on peut traduire en connaissance patrimoniale. Il y a aussi des questions de jurisprudence, d'interprétation de la loi ou d'interprétation même d'arrêt de la Cour de cassation dans certains cas d'ingénierie patrimoniale. Là, on va plutôt s'entourer d'êtres humains bien réels, puisqu'on a une dizaine de personnes qui nous aident depuis plusieurs mois, pour avoir rédigé ces fiches et être bien sûr, encore une fois, qu'on a les interprétations juridiques, la loi. Et on se branche très concrètement au code civil, au code monétaire financier, au BOFIP. Et on regarde de très près, bien sûr, les amendements et la prochaine loi de finances. Pour être à jour, nous, notre engagement, c'est toutes les semaines, on met à jour.
En préparant notre entretien, vous avez insisté sur le fait que vous étiez la première boîte à mission de ce secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi insister ? Ça veut dire quoi, cet engagement ? Ça signifie quoi ?
Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie notre ADN chez FitGenAI, de dire l'IA est un outil pour aider. Pour aider et faire gagner du temps. Bien sûr, pour ceux qui gèrent du patrimoine. On pense qu'on peut faire gagner beaucoup de temps. Un exemple qu'on a de l'un de nos clients, c'est je suis passé de 5 jours sur une tâche à 5 minutes pour avoir l'ensemble. Ça, c'est on aide et donc on reste bien dans cet ADN-là. Société à mission, ça veut dire aussi que cette technologie, elle est révolutionnaire. Elle peut aider plusieurs pans de la société. Et on s'est posé la question, comment être engagé en tant que société d'IA dans le domaine du patrimoine. Et c'est pour cette raison qu'on a conclu un partenariat avec une association reconnue d'utilité publique, le Secours Populaire, avec la Fédération de Paris. Pour faire quoi ? Pour montrer que les outils qu'on déploie auprès des professionnels du conseil patrimonial peuvent servir aussi d'autres organisations dans leur démarche de communication ou des réflexions aussi sur les clients qui viennent leur voir et qui ont besoin de conseillers patrimoniaux, eh bien on déploie nos outils au service de cette association de manière totalement bénévole et on montre encore une fois que l'IA est là pour durer, peut toucher différentes structures et qu'on peut être engagé tout en étant une start-up.
Bon, donc voilà, c'est double, entre guillemets, double intérêt de cette histoire-là. J'imagine, vous nous avez dit aussi que beaucoup de cabinets vous avez déjà regardé, vous avez déjà confiance, etc. Celles et ceux qui, ce matin, vous avoir entendu, et là, qui, au terme de la, des 10-12 minutes qu'on va avoir passé ensemble, va se dire, comment je peux bien faire pour, soit pour le découvrir, soit pour essayer, peut-être, ouais, voilà, pour ne serait-ce que tester votre outil.
Totalement, ils peuvent tester, d'ailleurs, 2 semaines totalement gratuitement, sans engagement, et je leur donne rendez-vous sur un site internet, FIGEN, FIGENAI.com. y regarde et nous proposons deux webinaires toutes les semaines, le lundi à 9h ou le mercredi à 17h. Si jamais ça ne va pas, on est flexible et on trouvera un créneau ensemble. Le lundi et le mercredi, on a comme ça de plus en plus de cabinets qui nous rejoignent, auxquels on répond à toutes leurs questions en toute transparence et ils peuvent tester l'outil ensuite.
Et l'avenir maintenant ?
L'avenir,
c'est quoi le rêve de FinGen.ai ?
Alors, les professionnels du conseil patrimonial qui nous écoutent connaissent peut-être différents outils qui ont été pionniers dans l'ère du digital et du numérique. Nous, notre conviction, c'est qu'il y a une nouvelle révolution technologique, l'IA, et qu'on peut bâtir beaucoup d'outils qui vont les aider, comme ça a pu les aider, ces outils numériques. Et donc, nous, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on écoute les besoins des conseillers, et sans trop en dire, eh bien, on peut dire que l'IA aujourd'hui nous permet notamment d'aider les professionnels sur des simulations beaucoup plus avancées, des bilans, des analyses patrimoniales. On est déjà en train de travailler avec différents family office, groupements et assureurs vie pour des déploiements sur mesure, pour aller beaucoup plus loin qu'une recherche d'expertise, mais des rédactions pour, là encore, déployer sur mesure, mais leur faire gagner beaucoup de temps.
Mais à chaque fois, B2B, enfin, vous adressez les professionnels, pas de version grand public pour...
Non, parce que on sait bien que entre la connaissance et la décision d'investissement, il y a tout un pan, toute une création de valeur qui n'est pas faite par l'IA et qui ne sera donc pas faite par FinGen, qui sera faite par les professionnels.
Merci beaucoup Vincent.
Merci à vous.
Vincent Aurez, donc FinGen AI, une nouvelle solution pour vos conseillers en gestion de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme promis, on se retrouve donc pour poursuivre dans notre thématique, dans notre dossier Assurance Vie. Cette semaine, on accueille Taline Melkonian. Bonjour Taline.
Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale pour De Groff Petercam. Donc, Assurance Vie, on l'a réexpliqué, un contrat qui permet de gérer ses actifs, son patrimoine avec et le fonds euro et les unités de compte qui concerne soit le souscripteur, soit ses ayants droit avec la clause bénéficiaire. Et donc, ce produit patrimonial, totem un peu de la gestion de patrimoine, il permet beaucoup de choses et notamment d'être démembré. Alors d'abord, rappelons peut-être la donnée de base. Qu'est-ce que c'est qu'un démembrement ?
Alors, le démembrement, c'est la situation dans laquelle deux personnes ont des droits différents sur un même actif. Faites attention à ne pas confondre démembrement avec indivision. Dans le cas d'une on va prendre l'exemple d'une maison, parce que là, c'est plus facile à visualiser. Dans l'exemple d'une maison, vous pouvez être en indivision, par exemple, à la suite d'un décès ou lors de l'acquisition, et vous êtes à 50-50, ouais. Et vous avez tous les deux les mêmes droits sur le même bien. Dans le cadre d'un démembrement, qui peut également être issu d'une succession, là, vous avez deux personnes qui ont des droits différents. L'usufruitier, lui, il a le droit d'utiliser le bien. Donc, pour un actif immobilier, il a le droit d'y habiter ou de le mettre en location. Et le nu propriétaire, qui est le réel propriétaire des murs. Donc, le démembrement, c'est ça. C'est quelque chose qui existe depuis le code civil romain de l'époque.
Et ce démembrement, donc, comme vous l'avez dit, ça se comprend bien sur une maison, sur un immeuble, on va dire, mais on peut l'appliquer à des produits financiers et on peut notamment l'appliquer à ce contrat d'assurance-vie, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce qu'on est toujours très inventif. Hein, et donc, vu que cette enveloppe est vraiment un outil qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très publicité, on a été très inventif et on a mis en place ce démembrement dans le cadre de l'assurance-vie. Alors, il y a deux façons de démembrer, de concevoir le démembrement dans l'assurance-vie.
Non, parce que franchement, le contrat d'assurance-vie, moi, je ne peux pas aller l'habiter. Donc, je me dis un petit peu, comment est-ce qu'on va faire pour le démembrer ?
On va en parler tout de suite. Un peu compliqué, en effet. Donc, soit on démembre à la sortie, c'est-à-dire que c'est la clause bénéficiaire qui est démembrée, soit on fait une souscription, dès le départ en démembrement.
Alors, commençons tiens par la souscription, puisqu'on va commencer par le départ, entre guillemets. Dans quel cas est-ce qu'on peut démembrer une souscription ?
Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on est déjà en démembrement, donc où on va se mettre dans une situation de démembrement. Et pourquoi est-ce qu'on imagine donc de souscrire un contrat d'assurance-vie en démembrement ? Parce qu'on a envie d'assurer une autre personne derrière. Donc par exemple, là où ça s'imagine assez facilement, assez aisément, c'est avec l'allongement de la durée de la vie. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui héritent à 50, 60, 65 ans, c'est-à-dire pas nécessairement à un âge où ils ont besoin. Et donc, on peut imaginer qu'un grand-père de son vivant donne la nue propriété à ses enfants et qu'ils décident ensemble de souscrire un contrat d'assurance vie pour pouvoir transmettre à la génération d'après, c'est-à-dire les petits-enfants. D'accord. Donc, le souscripteur, serait le grand-père usufruitier, l'enfant nu propriétaire, et les bénéficiaires seraient les enfants du nu propriétaire.
D'accord, c'est donc un schéma
oui.
qui permet quasiment de le faire à trois, là, pour le coup, ok. C'est hyper simple à faire ou ça demande une certaine application? Parce qu'il y a quand même pas mal de schémas patrimoniaux, Taline, qui paraissent un peu simples quand on les explique comme vous le faites, mais qui, dans la pratique, demandent de ne pas se tromper.
Alors,
notamment, soyons clairs, fiscalement, parce qu'il y a toujours le fisc qui rôde.
Sur la forme, c'est très simple. Une clause bénéficiaire, je sais pas, voilà, c'est assez simple. Une clause bénéficiaire, c'est une clause que vous mentionnez sur le contrat. Vous rédigez mes enfants, vous rédigez exactement ce que vous voulez. Donc, sur la forme, c'est très simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire par manuscrit ou sur papier libre, vous l'envoyez à l'assureur. Donc, la forme, très simple. Sur le fond, il faut être quand même un peu attentif. Déjà, sur qui vous allez bénéficier, désigner en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de souscription en démembrement, ce dont on parle là, le grand-père, il a déjà donné la nue propriété à ses enfants. Donc, bien évidemment, dans la clause bénéficiaire, il ne faut pas écrire que c'est ses enfants, que ce sont les enfants qui sont les bénéficiaires, parce que sinon, c'est totalement inefficace.
Hein.
Donc, il faut en effet faire très attention à la rédaction de la clause bénéficiaire. Aussi, pour prévoir le cas qui arrive malheureusement assez rarement, mais imaginons que l'usufruitier, le grand-père, survive à son enfant nu propriétaire. Eh bien, vu que l'assuré, c'est le nu propriétaire, le contrat va se dénouer. Donc, peut-être que lors de la mise en place, ce grand-père qui est usufruitier, il avait besoin de ses revenus. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que sur la forme, c'est très simple, mais sur le fond, il vaut mieux quand même toujours...
Et bien évidemment, il y a des réponses à toutes les questions.
Bien sûr, parce qu'il faut tout anticiper dans les clauses bénéficiaires, comme dans un contrat d'assurance vie classique, d'ailleurs, même sans parler de démembrement, il faut toujours prévoir plusieurs hypothèses. On ne sait pas, lorsqu'on la rédige à un instant T, on ne sait pas comment ça va se dérouler au moment du dénouement.
Et puis, donc, je fais une petite virgule. N'hésitez pas à relire régulièrement vos clauses bénéficiaires parce que nos vies évoluent, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on laisse dormir bêtement au fond d'un tiroir.
Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement de situation patrimoniale ou familiale, il faut impérativement re-regarder les clauses bénéficiaires. Et en règle générale, c'est bien tous les 3-5 ans quand même de jeter un coup d'œil. Je vous le redis, au fait, on vit de plus en plus longtemps. Donc, si vous voulez, là où à un instant T, ça vous semblait pertinent de désigner vos enfants, eh bien, peut-être que 10 ans, 15 ans plus tard, vous vous dites, mais mes enfants, au fait, ils n'ont plus besoin,
autant sauter
une génération. Donc, toujours bien regarder ces clauses bénéficiaires.
On rappelle, vous nous avez dit, on peut démembrer à deux niveaux, soit au moment de la souscription, soit dans la clause bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, deuxième volet, donc, de cette clause bénéficiaire démembrée?
Alors, la clause bénéficiaire démembrée est une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui, avec ses actifs, a souscrit à un contrat d'assurance vie et il a un objectif un peu différent de protection. C'est-à-dire qu'au fait, il veut protéger une personne dans un premier temps, mais pas pour autant lui passer l'intégralité des actifs de façon définitive. Donc, je vais vous donner des exemples et qui vont tout de suite vous faire comprendre quel cas on vise. Par exemple, monsieur et madame sont mariés, madame a souscrit un contrat d'assurance vie, madame souhaite bien entendu protéger son conjoint, mais elle souhaite que les actifs à terme aillent à ses enfants. Donc, ça peut être logique de désigner comme bénéficiaire le mari pour l'usufruit et les enfants du propriétaire. Mais il n'y a pas que ce cas-là. Ça peut être également le cas d'une personne qui aurait, par exemple, un enfant vulnérable, qui se dit, voilà, c'est mon enfant vulnérable, il va avoir besoin de revenus pour pouvoir financer son train de vie. Mais à son décès, je voudrais quand même que ça reste dans la famille et que l'argent retourne, dans l'hypothèse où il n'aurait pas de descendance, que l'argent retourne vers les neveux ou vers d'autres personnes. Donc tout ça, ça se réfléchit à l'avance. Et une fois de plus, j'insiste sur ce sujet, avec le rallongement de la durée de la vie, de l'espérance de vie, on peut même imaginer un démembrement de clauses bénéficiaires sur différentes générations. Donc là, on n'est pas dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où le grand-père et le père souscrivent ensemble. Le grand-père a bien souscrit tout seul. Il a son contrat à 30 ans, il a 90 ans, et puis il en discute avec ses enfants qui ont 70 ou 65 ans, et il dit, mais en fait, est-ce que ça n'a pas plutôt du sens qu'on passe directement la nue propriété aux petits-enfants, et vous, les enfants, vous gardez uniquement l'usufruit, puisque
après... Oui, inverser le schéma traditionnel.
Oui, et une fois de plus, l'objectif à chaque fois, c'est de gagner, on va dire, un passage à la case impôt.
Et là aussi, même attention sur la façon dont on rédige, parce que les clauses bénéficiaires, il faut que ce soit très, très bien rédigé. Hein.
Oui, là, il y a pareil, donc sur la forme, pareil, tout à l'heure, papier libre, comme vous le voulez, vous l'écrivez, mais sur le fond, il faut être assez attentif à différentes choses, prévoir déjà les situations où l'usufruitier ne serait plus là, où le nu propriétaire ne serait plus là, prévoir aussi la possibilité que l'usufruitier puisse renoncer au profit des nu propriétaires. Par exemple, je reprends la situation de monsieur, madame et les enfants, donc un schéma familial assez classique. Il se peut très bien que le mari ou l'épouse, au moment de récupérer l'usufruit du contrat d'assurance vie, se dit, mais finalement, ma foi, ça n'a pas beaucoup de sens que je le récupère, je vais le laisser directement aux enfants. Donc prévoir toutes ces possibilités-là, prévoir
c'est ce qu'on appelle la clause à tiroir, hein, souvent, oui, la clause l'année, entre guillemets.
Et aussi, ce qu'il convient de prévoir, là, c'est vraiment spécifique à la clause bénéficiaire démembrée, c'est d'une part prévoir que la fiscalité sera prélevée sur les capitaux décès pour ne pas mettre les nus propriétaires dans une situation où ils ne touchent rien au décès, mais quand même qu'ils aient des impôts à payer. Et aussi, faire très attention parce que lorsque le contrat va se dénouer, au fait, c'est des sommes d'argent qui vont être versées. Et lorsqu'on a un démembrement sur des sommes d'argent, et c'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est versé directement à l'usufruitier. Et donc, l'usufruitier, lui, il pourrait quelque part dépenser l'intégralité de la somme. C'est pour ça qu'il faut aussi mentionner les règles de est-ce qu'il faut fournir des garanties ou pas, est-ce qu'on indexe ou pas cette fameuse somme.
Et alors, comme on rentre là dans des clauses bénéficiaires qui sont particulières et qui doivent être très, 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 très précises, on rappelle que parfois, l'assureur est un peu timide, réservé, oui, prudent et qui dit « Oh, cette clause, je suis pas bien sûr de l'accepter ». Dans ces cas-là, on peut passer outre, entre guillemets. On peut rédiger ça avec son notaire, avec son conseil et dire dans le contrat, la clause bénéficiaire est déposée à tel endroit.
Oui, tout à fait.
Et comme ça, on passe outre les réserves éventuelles de l'assureur. On est d'accord.
Hein. Alors maintenant, ça commence à être de plus en plus courant, mais c'est vrai que les assureurs peuvent parfois... Enfin, c'est leur rôle. Hein. C'est eux qui doivent exécuter. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'ils prêtent beaucoup d'attention à la rédaction de cette clause bénéficiaire. Mais en effet, pour contourner cette difficulté,
la prudence,
on peut déposer chez un notaire la clause bénéficiaire.
Merci beaucoup Taline Melkonian donc, et Degrove Peterkam pour clore ce dossier Assurance Vie cette semaine.